sont passées les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire.
Aujourd'hui, j'ai demandé à mes copines de chacune nous présenter un livre sur ou d'une meuf qu'elles trouvaient hyper chouette. On les écoute ?
Debout, fameux esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Pour votre rubrique des livres de femmes ou des livres dans lesquels on parle de certaines femmes, j'ai eu envie de vous présenter un livre qui s'appelle « Photos de groupe au bord du fleuve » qui est d'Emmanuel Dongala. Elles sont une quinzaine à casser des blocs de pierre dans une carrière au bord d'un fleuve africain. Et elles ont décidé ensemble de vendre le sac de gravier plus cher désormais. L'enjeu de cette lutte n'est pas seulement l'argent et sa faculté de transformer les rêves en projets. Recommencer des études, ouvrir un commerce, prendre soin de sa famille. Malgré des vies marquées par la pauvreté, la guerre, l'oppression au travail, les violences sexuelles et domestiques, les casseuses de cailloux découvrent la force collective et retrouvent l'espoir. Cette journée ne sera pas comme les autres et les suivantes pourront bien bouleverser leur existence à toutes, à défaut de changer le monde. Et je vous lis un petit extrait. Tu n'as jamais dirigé de réunion de ta vie. Tu n'es pas comme ta sœur Tamara, qui en a mené des dizaines. D'abord en tant que représentante du mouvement étudiant, quand elle était à l'université, et puis plus tard, comme organisatrice de plusieurs rencontres, dont certaines internationales. Mais qu'à cela ne tienne, tu te sens à l'aise, car ceci n'est pas une réunion syndicale, mais une concertation entre collègues pour faire le point sur ce qui s'est passé ces derniers jours, depuis que vous avez décidé de vendre un peu plus cher votre marchandise. Ton assurance vient-elle du fait que tu sais que votre cause est juste et que cela te rassure de savoir que dans ce monde, il y a encore des causes justes? Je vous laisse découvrir le reste du texte. Emmanuel Dongala, il a quitté le Congo au moment de la guerre civile en 1997 et il vit aux États-Unis où il enseigne la chimie et la littérature africaine francophone à l'université. Il est né en 1941. Son livre, enfin moi je l'ai, aux éditions Babel.
On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye.
Hello, le livre dont je voulais parler, c'est un bouquin assez difficile à trouver. Ça fait 2 ans que je le cherche. Ça fait 2 ans que je le cherche en bouquiniste et que je le trouve pas. C'est un bouquin qu'on m'avait prêté qui s'appelle Archaos ou le jardin étincelant. C'est un roman de Christiane Rochefort. Christiane Rochefort, c'est une autrice qui a écrit beaucoup de livres dans les années 60-70, notamment des livres comme Les Stances à Sophie ou Les Petits Enfants du Siècle, qui sont des bouquins assez libres déjà, qui questionnent notamment le mariage. Et Archaos ou le jardin étincelant, c'est un bouquin qui... Je sais même pas comment le décrire. C'est une espèce de conte utopique sur un royaume fictionnel, fictif, qui s'appelle Archaos, et ouais, c'est un bouquin qui parle de comment on construit une société. Bon, c'est un royaume, hein, mais une société hors du capitalisme, hors du patriarcat. Enfin, il y a toutes ces questions là qui se posent. C'est vraiment passionnant. J'ai trouvé ça hyper thérapeutique. C'est hyper drôle. Et c'est quand même une grosse baffe tout en restant assez léger. Du coup, voilà, si vous l'avez, relisez-le, prêtez-le.
Si vous le trouvez, n'hésitez surtout pas à le lire. Et vous pouvez aussi lire tous les autres bouquins de Christiane Rochefort. Ce sera toujours intéressant. Mais voilà, si vous tombez sur Archaos ou Le Jardin étincelant, n'hésitez surtout pas à le lire. Voilà. Bonne soirée!
Never knowing the reason why, but whoever treasures freedom, like the swallow, has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night.
Alors moi, je propose un roman de Margaret Mitchell qui s'appelle « Autant n'emporte le vent », parce que ça raconte une belle histoire. L'héroïne, elle s'appelle Scarlett, elle a de trop jolies robes, elle est trop belle. Le contexte historique, c'est drôlement bien expliqué, parce que c'est l'histoire d'une femme qui a beaucoup de tempérament, puis qui se défend, quoi, alors que c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale de sécession. Puis c'est une histoire d'amour que elle est tellement romantique, quoi. Donc moi, je conseille ce livre-là.
J'ai envie de te parler des 100 nuits de héros, une bande dessinée de Isabelle Greenberg, parue en France en 2017 chez Casterman.
Je ne suis pas de celles qui bondissent sur le premier bijou souriant. Du temps il me faut pour que j'agisse, cœur de mousse modère ses battements.
Es-tu prête? Oui. Alors je commence. Au début était le monde, et il était bizarre. Cette histoire nous plonge dans un univers poétique qui n'a finalement de bizarre que ce qu'il a de commun avec notre monde, des rapports de domination ancrés dans des siècles d'histoire. Ce conte dessiné revisite les mille et une nuits, en centrant son sujet sur deux femmes. Chéri, mariée de force à un riche mari puant de pouvoir et de privilèges, et Héro, travaillant comme femme de chambre dans leur maison. Nos deux héroïnes sont amantes et vont devoir, pour éviter le viol de l'une d'elles et la mise à jour de leur histoire d'amour, imaginer un plan pour se protéger d'un prétendant, ou harceleur pour éviter les euphémismes. Bon, il faut échafauder un plan génial. La question étant, comment le tenir à distance pendant 100 nuits? Elle décide donc d'utiliser les talents de conteuse de Héro pour occuper le vieux comme lubrique qui vient harceler Chéri chaque soir et le distraire de son objectif durant les 100 nuits à venir. Héro grimpe à son tour dans le lit. Sous la couverture, elle prend la main de Chéri et la serre fort. Quel genre d'histoire voudrais-tu? Une histoire d'amour, bien sûr, et d'amants séparés contre leur gré. Une histoire sur le destin, la fureur, la tristesse, la passion et le désir. J'ai pile ce qu'il te faut. Voici l'histoire de la danse des pierres.
On brûlera toutes les deux en enfer, mon ange. J'ai prévu nos adieux à la terre, mon ange, et je veux partir avec toi. Je veux mourir dans tes bras.
S'ensuivent quelques 200 pages où les contes et légendes relatés se mêlent peu à peu à la trame principale du récit. Héro raconte des histoires de femmes, de sœurs, d'amantes,
de filles, dans un univers merveilleux dont la magie n'amoindrit en rien l'impact du patriarcat sur leur destin. Elle raconte la jalousie, la sororité, la rage, le care, le besoin de liberté et d'émancipation. En fait, Hero raconte la mémoire des femmes. Ces femmes privées du droit d'écrire et de lire, et donc privées du droit de transmettre leur histoire et leur savoir. Je ne vais pas divulgâcher cette merveilleuse BD, donc je m'arrête là sur le récit. Ce que je trouve formidable dans Les 100 nuits de Hero, c'est la façon dont Isabelle Greenberg parle, par le biais de sa conteuse, de la nécessité de transmettre l'histoire des femmes et de réinventer cette transmission hors des murs de l'hétéropatriarcat. De comment la transmission orale devient ici la seule solution pour avoir une histoire populaire féministe face à l'histoire légitime des dominants et oppresseurs. Cette BD m'a transportée de ouf à chaque lecture, à la manière d'un conte. Son imaginaire met une distance qui permet d'aborder un sujet super brassant de façon plus distanciée, plus douce. Ça travaille sans se le prendre directement dans la gueule. C'est ce qu'il y a de chouette dans la fiction, j'imagine. Ce qui fait qu'un album jeunesse peut parler de mort, d'oppression ou d'enfermement à des mômes. Je suis assez convaincue que les supports mêlant texte et images sont des outils d'éducation populaire super importants, car ils ne touchent pas de la même façon et pas les mêmes publics. Voilà, c'était tout pour Les 100 nuits de Hero d'Isabelle Greenberg. Je vous la conseille très fortement. Voilà, bonne journée à vous.
Alors, je voudrais vous présenter le livre de Laurent Gauthier, Salina, les trois exils. C'est un roman, c'est paru chez Actes Sud, et c'est un roman que j'ai énormément aimé, qui est sur l'exil, qui est sur une femme, et qui est à la fois... actuel et qui nous renvoie dans les mythes. Voilà. Qui dira l'histoire de Salina, la mère aux trois fils, la femme aux trois exils, l'enfant abandonné aux larmes de sel? Elle fut recueillie par Mamambala et élevée comme sa fille dans un clan qui jamais ne la vit autrement qu'étrangère, et qui voulut la soumettre. Au soir de son existence, c'est son dernier fils qui raconte ce qu'elle a été. Afin que la mort lui offre le repos que la vie lui a défendu, afin que le récit devienne légende. Alors, Laurent Gauthier, c'est un romancier qui écrit actuellement, qui est né en 72, et voilà, qui a écrit plein de romans, plein de pièces de théâtre aussi. Mais je ne saurais que vous conseiller tous ces romans. Je vous lis un petit extrait, un passage que j'ai particulièrement aimé. Pour laisser son esprit se reposer, Malaka demande au vieux passeur combien de corps il a déjà accompagné jusqu'au cimetière. « Tu es le premier ?» répond le vieil homme. Cela surprend Malaka. Il pensait que son passeur avait fait cela de tout temps. Darzagar explique alors que chaque passeur ne prend qu'un seul corps. Il en a toujours été ainsi. Il faut s'installer sur la grande place et attendre. Il arrive que le corps se présente après quelques heures, parfois après des mois, des années. Personne ne peut savoir. Mais chaque passeur ne le fait qu'une seule fois. Ce sont des hommes sans famille qui ont atteint l'âge au-delà de la vie. Lorsqu'ils décident de devenir passeurs, ils savent qu'ils ne feront plus que cela, attendre ceux qui viennent de loin. Combien de temps as-tu attendu ? Demande alors Malaka. 2 ans, répond Darzagar. Rien ne transparaît sur son visage, si bien que Malaka est incapable de dire s'il regrette que Malaka ait tant tardé ou au contraire s'il aurait préféré avoir davantage de temps. Pourquoi ne portez-vous pas vos propres morts au cimetière ? Demande alors le jeune homme. Darzagar a l'air surpris de cette question. Nos morts ? Retourne fleuve. Il en a toujours été ainsi. Il flotte, se décompose, nourrit le cycle éternel des eaux. Le cimetière n'a été construit que pour les étrangers. D'aussi loin que la ville est ville, elle a eu soif de récits. Alors, Malaka sent qu'il est prêt à poursuivre. La ville a soif. Les oreilles, les yeux, les bouches qui l'entourent sont là pour écouter et il doit leur donner l'histoire qu'il apporte de si loin. Et je saute un petit passage et je continue. Au moment où Malaka achève de rapporter les mots de Salina, il s'immobilise. Au loin, pour la première fois depuis qu'ils sont partis, l'île cimetière est en vue. Le jour se lève très pâle, posant sur la surface de l'eau une lueur nouvelle. L'île cimetière est de la taille d'un village, cerclée d'une haute muraille blanche. La flotte des barques a encore grandi autour de lui. Les embarcations doivent être plus d'une centaine. Il voudrait demander si c'est à chaque fois ainsi, lorsqu'un homme essaie d'amener son défunt au cimetière, si autant de pêcheurs accompagnent le voyage, suspendant tout dans leur vie, ne vivant le temps de la traversée que de ces plats qu'ils s'échangent les uns et les autres et des récits qu'ils se font chaque nuit, mais ils n'osent pas. Ils se contentent d'observer l'armada qui l'entoure. Ils escortent Salina, pensent-ils, et cela l'émeut. Car elle n'avait jamais rien vu de tel dans sa vie. On dirait un vaste marché marin qui tangue doucement. C'est alors que son attention est attirée par une agitation nouvelle. Visiblement, une des barques se vide de ses occupants. Les adultes passent les affaires sur un autre bateau, on transfère également les enfants. Le vieux Darzagar voit la curiosité de Malaka et lui explique. Il prépare la barque de la morte.
Le roman dont je vais vous parler s'intitule « Certaines n'avaient jamais vu la mer », dont le titre original en anglais est « The Buddha in the Attic », qu'on pourrait traduire par « Bouddha dans le grenier ». Ce roman il a été rédigé par une romancière américaine d'origine japonaise qui s'appelle Julie Otsuka. Cette femme elle est aussi diplômée en art et peintre et elle s'est intéressée tout particulièrement au sort des immigrés japonais et japonaises aux États-Unis dans la première moitié du XXe siècle. Ce roman, c'est en fait plutôt un récit, ou en tout cas une cumulation de récits de vie de jeunes filles et de jeunes femmes japonaises. Ces récits de vie, ils ont été imaginés par Julie Otsuka à partir d'un pendant de l'histoire qui est bien réel, lui. Ça se passe au début du XXe siècle. 10 à 20 000 jeunes femmes embarquent à bord d'un navire à destination de San Francisco pour retrouver là-bas un mari américain d'origine japonaise dont elles n'ont vu qu'une photo. À ces femmes, on leur a promis la lune. On leur a promis que l'Amérique leur offrirait tout. Le rêve américain, quoi. Elles partent donc pour une traversée de l'océan Pacifique avec pour seul bagage leur kimono pour retrouver leur futur mari. Les photographies qu'elles ont vues vont se révéler trompeuses puisque celles-ci ont été prises pour la plupart 20 ans plus tôt. Le récit narre leur rêve brisé. Il raconte donc le quotidien de ces femmes fait d'épreuves et d'exil, la traversée de l'océan, l'installation aux États-Unis, leur mariage, leur travail, l'adaptation, leur vie misérable d'exilée, la naissance de leur enfant, leur combat, l'humiliation subie des Blancs, puis au départ de la guerre, l'internement pour certaines dans les camps nippo-américains. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, déjà parce que j'aime bien la narration de l'histoire avec un grand H, par la petite histoire, ou en tout cas là, les petites histoires. Mais ce que j'ai trouvé vraiment sublime dans ce bouquin, c'est que la narration, en fait, elle se fait pas à la première personne. On raconte pas l'histoire de chacune d'elles par un je. En fait, la narration, elle se fait à la première personne du pluriel, avec des nous. Et ces nous rassemblent donc les destins multiples, les morceaux de vie, les instants, les détails, les fractions d'existence. Les portraits sont d'un même cœur et d'une seule voix. Et c'est vraiment sublime et puissant. Ce que je trouve très beau aussi dans ce roman, c'est les luttes et les combats de ces femmes et de chacune de ces femmes à tous les endroits de leur vie. Et pour que ce soit plus parlant, je vais vous faire des lectures de certains passages du livre. Sur le bateau, parfois, nous restions éveillés pendant des heures dans l'obscurité sombre et humide de la cale, remplis de désirs et de peurs, nous demandant comment nous tiendrons encore 3 semaines. Sur le bateau, nous étions presque toutes vierges. Nous avions de longs cheveux noirs, de larges pieds plats, et nous n'étions pas très grandes. Certaines d'entre nous n'avaient mangé, toute leur vie durant, que du gruau de riz, et leurs jambes étaient arquées. Certaines n'avaient que 14 ans, et c'était encore de petites filles. Certaines venaient de la ville et portaient d'élégants vêtements, mais la plupart d'entre nous venaient de la campagne, et nous portions pour le voyage le même vieux kimono que nous avions toujours porté, hérité de nos sœurs, passées, rapiécées, et bien des fois retint. Certaines descendaient des montagnes et n'avaient jamais vu la mer, sauf en images. Certaines étaient filles de pêcheurs, et elles avaient toujours vécu sur le rivage. « Nous voilà en Amérique, nous dirions-nous. Il n'y a pas à s'inquiéter. Et nous aurions tort. » Nous savions coudre et cuisiner, servir le thé, disposer des fleurs et rester assis sans bouger sur nos grands pieds pendant des heures en ne disant absolument rien d'important. Une jeune fille doit se fondre dans le décor. Elle doit être là sans qu'on la remarque. Si nos maris nous avaient dit la vérité dans leurs lettres, qu'ils n'étaient pas négociants en soieries, mais cueillant des fruits, qu'ils ne vivaient pas dans de vastes demeures aux pièces nombreuses, mais dans des tentes, des granges, voire des champs, à la belle étoile, Jamais nous ne serions venus en Amérique accomplir une besogne qu'aucun Américain qui se respecte n'eût acceptée. Leur langue était 10 fois plus compliquée que la nôtre et les coutumes incroyablement étranges. Les livres se lisaient de la fin vers le début et on utilisait du savon au bain. On se mouchait dans des morceaux de tissu crasseux que l'on repliait ensuite pour les ranger dans une poche afin de les utiliser encore et encore. Le contraire du blanc n'était pas le rouge, mais le noir. Qu'allions-nous devenir, nous demandions-nous, dans un pays aussi différent ? Nos maris nous faisaient trimer comme des esclaves. Ils importent ces filles du Japon pour avoir de la main-d'œuvre gratuite. Nous travaillions au champ du matin au soir, sans même nous arrêter pour manger. Nous travaillions au champ tard dans la nuit, à la lumière de nos lampes à pétrole. Jamais nous ne prenions un jour de congé. Une horloge et un lit, voilà deux choses qu'un paysan japonais n'utilisera jamais dans sa vie. Ils savaient quand ils étaient autorisés à aller nager à la piscine. Les lundis sont réservés aux gens de couleur. Ils savaient qu'ils devaient toujours commencer par téléphoner au restaurant. « Servez-vous les Japonais ?» La liste contenait 500 noms. La liste contenait plus de 5000 noms. La liste était sans fin. À chaque arrestation, un nom était rayé de la liste. À chaque fois qu'un nom était rayé de la liste, un autre y était ajouté. De nouveaux noms étaient ajoutés chaque jour, chaque semaine, chaque heure.
Moi, je voudrais vous parler de Désoriental de Negar Djawadi, paru aux éditions Liana Levy, collection Piccolo. C'est un livre qui m'a été prêté par Bastien et Philo, que je remercie énormément de cette rencontre. Ça m'a fait un peu la même chose qu'un autre livre dont on pourrait parler ici, qui s'appelle Le jour où Nina Simone a cessé de chanter. Et Désoriental, c'est un livre d'une femme iranienne qui raconte à la première personne son histoire d'exil en France et son arrivée en France et toute l'histoire qu'elle a par rapport à ça, sa relation à son père et puis aussi toute une histoire sur la question d'être une femme et vouloir un enfant. Et c'est assez beau et enfin, assez bouleversant. Je crois que j'ai juste envie de vous lire le début de ce livre. L'escalator. À Paris, mon père, Darius Sard, ne prenait jamais d'escalator. La première fois que je suis descendue avec lui dans le métro, le 21 avril 1981, je lui ai demandé la raison, et il m'a répondu « L'escalator, c'est pour eux. » Par eux, il entendait vous, évidemment. Vous qui alliez au travail en ce mardi matin d'avril, vous, citoyens de ce pays dont les impôts, les prélèvements obligatoires, les taxes d'habitation, mais aussi l'éducation, l'intransigeance, le sens critique, l'esprit de solidarité, la fierté, la culture, le patriotisme, l'attachement à la République et à la démocratie avaient concouru durant des siècles à aboutir à ces escaliers mécaniques installés des mètres sous terre. À 10 ans, je n'avais pas conscience que de toutes ces notions, mais le regard désarmé de mon père, attrapé durant les mois passés seul dans cette ville et que je ne le connaissais pas, m'ébranla au point qu'aujourd'hui encore, chaque fois que je me trouve face à un escalator, je pense à lui. J'entends le bruit de ses pas qui grimpent les marches dures de l'escalier. Je vois son corps légèrement penché en avant par l'effort, obstiné, volontaire, ancré dans le refus de profiter du confort éphémère de l'ascension mécanique. Dans la logique de Darius Sard, ce genre de luxe se méritait. Sinon, c'était de l'abus, voire du vol. Son destin s'inscrivait désormais dans les escaliers de ce monde, le temps qui s'écoule sans surprise, le regard indifférent des passants. Oh, 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 oh
livre que j'aime bien, que j'ai trouvé pas mal intéressant. Donc, c'est La gentrification des esprits, témoin d'un imaginaire perdu, écrit par Sarah Schulman. Alors, d'abord, je vais vous présenter l'autrice, donc Sarah Schulman, qui vient de New York, qui est états-unienne, qui a aujourd'hui une soixantaine d'années, qui est donc une militante LGBT, qui est aussi prof à l'Université de New York. Elle a été membre de ACT UP New York, et elle a créé, et alors c'est assez intéressant, elle a créé un projet, il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle l'ACT UP Oral History. Donc c'est un projet qu'elle a créé, je vais vous parler de ce projet un peu parce que je trouve que c'est intéressant. C'est un projet qu'elle a créé avec Jim Hubbard et qui a pour objectif de recueillir et d'archiver un maximum de témoignages de personnes qui ont participé, qui ont mené des actions de lutte contre le sida dans les années 80 et 90 aux États-Unis. Du coup, ce projet, il est né donc en 2001 parce que, en fait, à un moment donné, donc elle raconte ça dans l'introduction du livre « La gentrification des esprits », à un moment donné, elle était dans sa voiture et elle a écouté une émission de radio. Je vais vous lire ce passage de l'introduction que je trouve sympa et voilà. Donc, elle écrit. Plus tard, alors que je rentre chez moi à bord de ma voiture de location blanche, je zappe les stations de radio, déterminée à me familiariser avec les derniers hits, à me montrer plus en harmonie avec la culture pop. Je m'efforce de m'imprégner jusqu'à en mourir d'ennui, avant de me rabattre sur la NPR, la National Public Radio. Bizarrement, c'est le 20e anniversaire du sida. Dépaysé par les palmiers qui m'entourent, j'écoute. Le présentateur évoque des événements dont j'ai une connaissance intime et organique, des événements qui ont marqué les fondements émotionnels de ma vie d'adulte. Et pourtant, il y a quelque chose d'étrangement détendu dans la manière qu'il a de raconter cette histoire. Elle a été légèrement banalisée, homogénéisée. C'est la première fois que je suis témoin de l'historicisation du sida, et il y a quelque chose de trop propre dans ce récit. Quelque chose qui sonne faux. Quelque chose de gentrifié. Au début, l'Amérique avait du mal avec les personnes atteintes du sida, explique le présentateur sur un ton faussement conversationnel, destiné à se montrer rassurant face à des phénomènes apocalyptiques. Mais ensuite, son opinion a changé. J'ai failli avoir un accident de voiture. Oh non. Non, ai-je pensé. Pas ça. Pas après toutes ces morts, toute cette douleur, cette réalité intolérable de la persécution, de la souffrance et de l'indifférence de celles et ceux qui étaient à l'abri. Maintenant, ils vont faire comme si la situation avait fini par, naturellement, comme d'habitude, s'améliorer. C'est comme ça que nous sommes, nous, les gentilles américaines. Nous changeons d'opinion lorsque c'est la meilleure chose à faire. Nous sommes tellement gentils. Tout se passe exactement comme il faut. Vraiment, je prends conscience. Comme lorsque l'on s'aperçoit qu'on ne va pas pouvoir éviter le train et qu'on reste coincé sur les rails. C'est à ça que va ressembler l'histoire officielle du sida. Donc voilà, elle prend cette conscience-là et donc elle décide que non, il faut remédier un truc, il faut que nous, enfin que nous, enfin pas moi, mais que elle et ses amis, les survivants et survivantes, comme elle les appelle, prennent en main cette historisation du sida avec pour dire en fait c'est quoi qu'ils ont vécu et comment en fait montrer aussi le côté sensible de tout ça et de et voilà. Et du coup donc la gentrification des esprits que j'ai devant moi, c'est aux éditions B42 et la traduction elle est de Emily Noteris. Je crois que c'est un texte qu'elle a écrit il n'y a pas si longtemps que ça, Sarah Schulman. En tout cas, là, l'édition que j'ai, la traduction, elle date de 2018. Et voilà, et du coup, bah, je me dis, peut-être si vous voulez, je peux vous lire la quatrième de couverture. Comme ça, peut-être ça vous donnera envie après. Alors, la gentrification des esprits est un retour captivant sur la crise du sida et l'activisme d'ACT UP dans le New York des années 80-90. Sarah Schulman, elle-même new-yorkaise et militante de la cause LGBT, se souvient de la disparition du centre-ville, pratiquement du jour au lendemain, de la culture rebelle queer, des loyers à bas coût et du prolifique mouvement artistique qui se développait au cœur de Manhattan, remplacé par des porte-paroles gays conservateurs ainsi que par le consumérisme de masse. Elle décrit avec précision et engagement le remplacement d'une communauté par une autre, et le processus de gentrification qui toucha ces quartiers concomitamment à la crise du sida. Sarah Schulman fait revivre pour nous le Lower East Side qu'elle a connu. Elle ravive autant le souvenir de ses amis de l'avant-garde queer que celui de l'ombre inquiétante des premières années de la crise du sida, telle que vécue par une militante. Les souvenirs personnels s'entremêlent à une analyse percutante de deux phénomènes, et du poids invisible qu'ils font aujourd'hui peser sur la société américaine. L'autrice rend compte de son expérience en tant que témoin de la perte de l'imagination de toute une génération et des conséquences entraînées par cette perte. Voilà. Chose que je voulais dire sur ce livre importante, c'est que je trouve ce qui est hyper intéressant et trop chouette, c'est que du coup, Sarah Schulman, elle nous donne dans ce livre pas mal de réflexions qu'elle a eues et des enquêtes qu'elle a menées donc sur ce qu'elle voulait démontrer entre le lien qu'il y a eu en jeu entre la gentrification et la crise du sida, et de comment ça a créé une gentrification des esprits, comme elle appelle. Et ce qui est, je trouve, très enrichissant, c'est que ça pourrait paraître comme un texte universitaire, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Je le trouve hyper accessible, je trouve que la lecture est hyper accessible, notamment par le fait que Sarah Schulman, en fait, dans ce livre-là, elle parle au jeu, enfin elle écrit au jeu, hein, elle écrit pas au « on », ce truc impersonnel qui est censé montrer une objectivité, non, elle écrit vraiment « je » et elle raconte ses expériences dedans, donc je trouve ça hyper intéressant. Et voilà, c'est tout.
Le temps de la colère.